Radio Prague, les informations. Bonjour, les restrictions budgétaires pour cette année sont au menu de la réunion ministérielle tendue de ce mercredi. Prague accueille depuis ce mercredi la rencontre internationale Mensa et puis enfin en football, le Sparta de Prague a battu les Polonais de Poznan au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les restrictions budgétaires pour cette année sont au menu de la réunion ministérielle ce mercredi. Le débat s'annonce houleux du fait que le parti Affaires publiques de Radek Jön veut opposer son veto au projet des restrictions envisagées. Jön estime que les restrictions proposées par le ministre des Finances toucheront surtout les secteurs confiés au ministre du parti Affaires publiques qui forme avec le Parti civique démocrate ODS et Top 09 la coalition gouvernementale tchèque. Radek Jön comprend la nécessité de faire des économies mais ne comprend pas pourquoi ce sont surtout les ministres issus de son parti qui doivent faire les frais de la politique d'austérité. Prague accueille depuis ce mercredi plus de 400 membres de Mensa en provenance de 28 pays de 4 continents. L'information a été communiquée par le président de Mensa République tchèque. Rappelons que Mensa est une organisation internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98% de la population au test d'intelligence, le plus souvent un test de QI. C'est la première fois que la réunion annuelle européenne des membres de Mensa se tient en République tchèque. Le célèbre réalisateur britannique Ken Loach présente plusieurs de ses films ce mercredi à l'école d'été de cinéma qui se tient actuellement à Uherské Hradiště en Moravie du Sud. L'occasion également pour les organisateurs de lui remettre un prix pour l'ensemble de son œuvre et à Ken Loach de présenter au public son projet intitulé « Leçon de film selon Ken Loach ». L'école d'été de cinéma propose non seulement un riche programme de projections de longs et de courts-métrages mais aussi des tables rondes et des débats. Mardi, cinéastes et critiques de cinéma se sont ainsi penchés sur les années 1990 du film tchèque. La section intitulée « Les années sauvages 1990 » figure d'ailleurs au cœur de l'intérêt de ce festival sans compétition qui en est cette année à sa 36e édition. On passe au sport, à l'athlétisme. Plusieurs Tchèques se sont qualifiés pour la finale dans leurs disciplines respectives. C'est mardi et mercredi à l'occasion des deux premières journées des championnats d'Europe à Barcelone. Mardi d'abord, Barbora Potáková, un des principaux espoirs de médaille tchèque, s'est qualifiée pour la finale du javelot féminin grâce à un lancer à 65,56 m, tout comme sa compatriote Yarmila Klimeshova. Mardi toujours, Yaroslav Baba s'est qualifié pour la finale du saut hauteur masculin et Lenka Masna pour celle du 800 m féminin. Enfin, ce mercredi, Irina Ptnachnikova, oulala, s'est qualifiée pour la finale du saut à la perche féminin. En football, le Sparta a battu les Polonais du Lech Poznan 1-0 à Prague mardi soir en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le champion de République tchèque a inscrit son but en deuxième mi-temps. Le match retour se tiendra en Pologne mercredi prochain. On termine avec un mot de météo. C'est un temps couvert qui règne sur la majeure partie du territoire ce mercredi. Les températures maximales ne dépassent pas les 24 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Trois généraux tchèques impliqués dans une affaire d'espionnage est contraint de quitter l'armée. À partir du début de ce mois d'août, l'entrée dans la cathédrale Saint-Guy sera de nouveau payante. Le Festival international de musique de Český Krumlov a présenté une nouvelle production de l'opéra Don Giovanni, chef-d'œuvre lyrique de Mozart. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon que la section française a préparé pour vous. Merci de rester avec nous. Le quotidien Mladá Fronta Dnes, qui a révélé l'affaire en une ce mardi, l'a déjà surnommé la Matahari tchèque. Une officier de l'armée tchèque, dont le nom reste inconnu, aurait été en contact avec un espion russe et serait responsable du départ de trois généraux avec lesquels elle a travaillé. Pas de confirmation officielle pour l'instant. Alexis Rosenzweig.
Au départ de cette affaire, il y a d'abord quelques lignes dans le rapport annuel des renseignements militaires tchèques, quelques lignes que je vous cite. Nous avons identifié et éliminé l'infiltration des renseignements militaires russes dans des structures influentes de commandement de l'armée et dont l'objectif était d'obtenir des informations sensibles au niveau les plus élevés du domaine de la défense. Derrière ces quelques lignes, si on en croit le quotidien, pourrait se cacher la plus grande affaire d'espionnage de ces dernières années en République tchèque. Citant une source anonyme, le quotidien Mladá Fronta Dnes révèle qu'un psychologue tchèque employé par l'État à la direction des prisons, Robert Raharjo, était un agent des renseignements russes. Cet homme aurait travaillé et sympathisé avec une major de l'armée tchèque qui a successivement dirigé le bureau des trois généraux aux fonctions importantes et qui ne font plus partie de l'armée depuis plusieurs mois déjà. Le premier dirigeait le département militaire du président de la République, le deuxième représentait la République tchèque dans le commandement européen de l'OTAN et le troisième était l'adjoint du chef d'état-major. Selon Jiří Šedivý, ancien chef de l'état-major tchèque, cette affaire soulève plusieurs questions.
La première question est de savoir si ces trois généraux étaient au courant du lien avec les Russes. La deuxième est de savoir s'il y a vraiment eu des fuites d'informations confidentielles. Et enfin de savoir si la loi a été enfreinte. Je pense personnellement que dans leur cas, les réponses sont négatives. J'aurais une autre question. Pourquoi trois généraux qui ont récemment été formés à l'Ouest, deux aux États-Unis et un en Grande-Bretagne? De la part des Russes, cela me semble être ciblé.
Robert Raharjo, que le contre-espionnage tchèque suivait apparemment depuis quelques années, a quitté le pays. La major mise en cause a été dégradée et n'est plus dans l'armée, mais elle n'a pas été poursuivie. Plusieurs alertes sur les agissements des services russes en République tchèque ont été données récemment. Le mois dernier, la centrale des renseignements, BIS, a indiqué que les services de Moscou étaient de plus en plus actifs ici, notamment dans le secteur de l'énergie. Et l'année dernière, deux diplomates russes soupçonnés d'espionnage, dont l'adjoint de l'attaché militaire à l'ambassade russe, ont été expulsés de Prague.
À partir du début de ce mois d'août, l'entrée dans la cathédrale Saint-Guy au château de Prague sera de nouveau payante. La cathédrale, située dans l'enceinte du château, est une des dominantes de la capitale tchèque et une des destinations privilégiées de touristes étrangers. Alena Gebertova.
Évitez les longues files d'attente et accélérez les visites à l'intérieur de la cathédrale. Protégez en même temps ce monument précieux en régulant en partie la circulation des touristes qui sont en été des milliers à y passer chaque jour. Tels sont les motifs qui ont poussé l'administration du château de Prague à réintroduire cette nouvelle disposition qui avait été en vigueur déjà avant l'an 2006. Seul l'accès dans une petite partie de la cathédrale à l'entrée sera gratuit. Le reste sera accessible avec un ticket. Le château de Prague propose actuellement à ses visiteurs deux circuits guidés différents. La visite de la cathédrale Saint-Guy, qui abrite entre autres les tombeaux des rois et des princes Přemyslides, faisant partie des deux. Le grand circuit impliquant l'ancien palais royal, la basilique Saint-Georges ou la galerie du château de Prague coûte 350 couronnes, tandis que le petit 250 couronnes, l'équivalent de 10 euros. Autrement dit, ces dernières sommes doivent désormais même être payées aussi par ceux qui ne veulent que visiter la cathédrale, qui est le principal monument religieux du pays. Rappelons que des litiges et des tracasseries judiciaires au sujet de la gestion de la cathédrale Saint-Guy ont traîné depuis le début des années 90 et qu'ils ont pris fin il y a à peine 2 mois lorsqu'il a été décidé qu'elle serait assurée en commun par l'État et l'Église. Le nouveau primat tchèque Dominik Duka l'a confirmé en déclarant.
La cathédrale est un symbole national, spirituel, étatique et culturel cher à l'ensemble des habitants de ce pays, sans distinction de leur confession respective.
La nouvelle décision, qui rend payante la visite de la cathédrale Saint-Guy, va probablement déplaire à une partie du public tchèque, qui accueille tout de même favorablement le fait qu'un compromis raisonnable entre l'État et l'Église ait été finalement trouvé.
C'est Don Giovanni, chef-d'œuvre lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart, qui figure entre autres au programme du Festival international de musique de Český Krumlov. La première de cette production était très attendue parce que la mise en scène avait été confiée au célèbre réalisateur de cinéma Jiří Menzel. Le théâtre à ciel ouvert de Český Krumlov, situé au milieu d'un jardin baroque, est célèbre dans les sens positifs et négatifs. Au milieu du jardin baroque se trouve un plateau sur lequel sont situés les sièges de théâtre qui tournent pendant les représentations. Cette salle à ciel ouvert oriente les spectateurs vers différentes parties du parc qui deviennent des décors naturels pour des productions théâtrales. Les metteurs en scène savent exploiter ce mécanisme ingénieux qui donne de l'originalité à leur travail est très apprécié par le public. Par contre, l'UNESCO voit d'un mauvais œil l'architecture industrielle du plateau tournant qui jure avec les belles allées du parc. Cette fois-ci, cependant, la presse évoque le théâtre dans un sens plutôt positif grâce à la dernière production présentée dans ce jardin par le festival de Český Krumlov et le théâtre de Bohême du Sud. Un des aspects de cette production qui attire beaucoup le public est la mise en scène de Jiří Menzel. Ce dernier voulait faire avant tout un spectacle d'été et donner au chef-d'œuvre de Mozart un caractère léger.
Já jsem měl jediný úkol, a aniž bychom si to řekli, vlastně s dirigentem jsme byli zajedno.
Dans la plupart des cas, on met en scène Don Giovanni avec trop de sérieux. Tel a été le cas de la majorité des productions de cet opéra que j'ai vu au théâtre ou dans des enregistrements vidéo. Je voulais les interprètes les plus légers possibles. Je ne voulais pas qu'ils pensent trop au chant, car il est difficile à supporter lorsqu'ils font trop attention aux notes. Je les voulais plus décontractés, plus frivoles, plus gais, parce que la musique de Mozart est gaie.
Komisilnější a takový jako veselější, protože Mozart je veselá muzika.
Pour réaliser sa conception, Jiří Menzel a trouvé un complice dans le chef d'orchestre italien Antonello Almandi, qui a opté pour les tempis plus rapides qu'à l'ordinaire. Le metteur en scène ne voulait pas cependant forcer les chanteurs à accepter sa vision de l'opéra.
To byla z mé strany prosba a akceptovaná, jenomže přece oni jsou vychovaní.
Ce n'était qu'un souhait de ma part qui a été accepté. Seulement, les chanteurs sont habitués depuis leur enfance à faire attention à chaque petite note, et souvent ce n'est pas facile car certains airs sont extrêmement difficiles. Tout à coup, on oublie de jouer parce qu'on fait attention à ce qu'on chante. Je le respecte. Heureusement, dans ce théâtre à ciel ouvert, les chanteurs sont si éloignés du public qu'on ne voit pas les crispations de leur visage lorsqu'ils chantent. Mais ce qui est important, c'est que, en dehors de cela, ils jouent légèrement.
Že vlastně jinak to hrajou zlehka.
Pour le chef d'orchestre Antonello Almandi, il n'était pas facile de diriger cet opéra dans les conditions très particulières du théâtre en plein air, car l'orchestre est caché à l'intérieur d'un pavillon et le chef n'est en contact avec les chanteurs qu'à l'intermédiaire des caméras de télévision. Le rôle de Donna Anna, le soir de la première, a été campé par la cantatrice italienne Elena Rossi.
It's better to think to the nature.
Chanter à Český Krumlov est quand même un peu plus difficile qu'ailleurs. Donna Anna est mon rôle préféré. Ce qui est donc important pour moi, c'est de me concentrer sur la belle localité où nous jouons, sur le somptueux jardin et la belle musique. J'espère que la nature et la belle musique nous aideront et que nous avons pris un bon chemin.
The best way.
Le mauvais temps du jour de la première, vendredi dernier, a obligé les organisateurs à donner le spectacle dans le manège du château. Cette version réduite du spectacle a remporté pourtant un grand succès. Au programme du festival, il y a 6 représentations de cet opéra. C'est donc avec un fragment de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart que prend fin ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé pour vous par la section française de Radio Prague, et nous appelons à l'écoute tous les amateurs d'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Le XIXe siècle ne fut pas que le siècle de la révolution industrielle, il fut aussi celui de la polka, qui déferle sur l'Europe depuis Prague dans les années 1840. Au-delà de leur aspect récréatif, musique et danse ont également véhiculé dans la Bohème et la France du XIXe siècle de nombreuses symboliques. Avant la grande vague révolutionnaire de 1848 en Europe, c'était une petite révolution dans le domaine de la danse que contribue la Bohème avec la polka. Venue de Prague, elle s'impose dès 1840 comme un véritable phénomène de mode à Paris. Présentée d'abord sur une seule scène, pour susciter immédiatement de nombreuses émules, la polka fait la fortune du Hongrois Cellarius qui l'enseigne à Paris. Comme le précise Destra, professeur de danse et érudit, dans son dictionnaire de la danse en 1895, il faut avoir passé l'hiver à Paris cette année-là pour se faire une idée exacte de la révolution qui explosa comme une insurrection dans tous les salons, pour saisir à quel point jeunes et vieux, mères et filles, magistrats et avocats, médecins et étudiants, s'abandonnaient aux plus passionnés des ébats polkaïques. Et il ajoute: marques de vêtements d'hommes et de femmes, mets et entremets servis dans les plus somptueux dîners, tout ou presque furent rebaptisés du nom de polka. En sortant de l'école, les gamins dansaient la polka dans les rues, en chantant l'air de Bohème original. Sous la Restauration déjà, la mode parisienne cédait à une certaine attraction pour le slavisme, avec les pantalons polonais et les gilets cosaques, par exemple. Ces habits ne sont pas sans évoquer ce que l'on verra ici et là sur les barricades de Prague en 1848. La même année, on peut aussi se procurer à Paris un almanach des polkeurs. Au-delà des anecdotes, le succès européen de la polka a pu constituer une source de légitime fierté chez les Tchèques, d'autant plus que dans le contexte de la Bohème du XIXe siècle, musique et danse sont également censées véhiculer l'âme nationale. D'ailleurs, les compositeurs tchèques comme Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich ou Antonín Dvořák recherchent une authenticité nationale avec la polka. Smetana ne déclare-t-il pas en 1862 « Étant tchèque, j'organise des concerts tchèques ». Il faisait allusion au débat sur l'utilisation des deux langues, tchèque et allemand, dans certains concerts d'oratorio à Prague. Smetana dirige la section musicale du Cercle des artistes créé en 1863, À partir des années 1886, le cercle décide de s'adresser à un public de plus en plus populaire. Dans la France du XIXe siècle, la musique n'est pas une matière mise en avant dans le cadre de l'école, par exemple. Lors de la réorganisation des écoles primaires en 1883, les matières obligatoires ne comprennent même pas le chant et aucun livre de chant n'existe vraiment. En un mot, l'éducation musicale n'a pas sa place à l'école. En revanche, dans la formation des chorales, la situation est plus favorable. Dans les années 1830, Bocquillon rassemble les meilleurs élèves dans un chœur de 1200 voix intitulé l'Orphéon. En 1868, on compte plus de 3000 chorales disséminées un peu partout en France. Récréative, la chorale peut également prendre une dimension politique. Ainsi, à Toulouse, dans les années 1840, les chorales défilaient dans les rues en chantant jusqu'à ce que la police le leur interdit. En Bohême, la chorale prend une dimension symbolique plus nette encore. En effet, le chant choral représente une forme traditionnelle de sociabilité slave et on connaît l'importance du chant choral dans la liturgie des premiers hussites. Il existe de nombreuses chorales en Bohême, comme l'association Lahol, créée à Prague en 1861. Certaines chorales sont organisées par branches de métier, comme la chorale des typographes, qui donne des représentations dans les restaurants de Prague. Et à Malastrana comme à Smíchov, ce sont des groupes d'ouvriers qui pratiquent le chant choral.
La mission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité à notre radio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr. Thank you.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20.30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.